Laudetur Jesus Christus.
Il y a tout juste 5 ans, le pape François, seul sur la place Saint-Pierre, interpellait le monde, confiné en pleine pandémie de Covid. Personne ne se sauve seul, lançait-il. Retour dès le début de ce journal sur ce moment fort qui résonne encore aujourd'hui. Situation humanitaire toujours très précaire dans la bande de Gaza, où l'armée israélienne contraint des centaines de milliers de personnes à se déplacer. Témoignage à suivre d'un humanitaire du Norwegian Refugee Council. À la une de ce journal également, reportage dans le sud de Madagascar, dans un centre de nutrition pour les enfants, alors que s'ouvre à Paris aujourd'hui un sommet international pour lutter contre la malnutrition. Et puis dans notre dossier, gros plan sur le Canada ce matin, où s'est ouverte la campagne aux élections législatives anticipées. Un scrutin, on le verra, qui se joue en pleine guerre commerciale avec les États-Unis.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
Bonjour, c'est sans doute l'une des images les plus marquantes du pontificat. Il y a cinq ans, jour pour jour, alors que le monde était plongé dans l'inquiétude d'une pandémie de Covid faisant basculer toutes les certitudes, un homme en blanc, seul sur le parvis d'une place Saint-Pierre déserte. Sous la pluie, dans la pénombre, il élève la voix vers le ciel, suppliant le Seigneur de guérir une humanité blessée. Un moment de prière extraordinaire présidé par le pape François ce 27 mars 2020 et qui résonne, Delphine Allaire, encore avec force aujourd'hui.
Oui Olivier, cette voix du pape qui est aujourd'hui fragilisée, rare, s'est faite alors l'écho clair, fort et dramatique des souffrances d'un monde aspirant à être libéré de la pandémie alors d'une ampleur inconnue. Seul dans un face-à-face avec Dieu, la prière du pape, intime et chorale, solennelle et simple, prophétique, s'est muée en supplique dramatique dans la nuit de la place Saint-Pierre.
Di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare.
Dans cette prière extraordinaire, le pape invitait à saisir ce temps d'épreuve comme un temps de choix entre ce qui est nécessaire et ne l'est pas, chacun réorientant sa route vers Dieu et les autres, notamment toutes ces personnes ayant prouvé leur courageux dévouement.
Nous pouvons voir de nombreux compagnons de voyage exemplaires qui, dans cette peur, ont réagi en donnant leur vie. Ils sont souvent oubliés, médecins, infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, agents d'entretien, aides-soignants à domicile, transporteurs, forces de l'ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant d'autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul.
Personne ne se sauve tout seul, fragile et désorienté. Nous sommes tous sur la même barque, appelés à ramer ensemble, développait le successeur de Pierre en cette 4e semaine d'un carême confiné où le monde fut éprouvé. 5 ans après, la place Saint-Pierre et le monde prieux pour François en convalescence depuis la maison Sainte-Marthe.
Merci beaucoup Delphine Allaire et ces mots du pape en pleine pandémie. Vous pouvez bien sûr les retrouver sur notre site vaticannews.va. Israël poursuit son offensive meurtrière contre la bande de Gaza. Hier, le ministre de la Défense a menacé de s'emparer de nouveaux secteurs du territoire palestinien si les otages aux mains du Hamas n'étaient pas libérés. Et plus de 142 000 habitants de la bande de Gaza ont été déplacés depuis la reprise, il y a bientôt 10 jours, des frappes israéliennes sur l'enclave, des chiffres annoncés hier soir par les Nations Unies, des mouvements de population qui rendent toujours plus vulnérable une population gazaoui déjà en manque d'aide humanitaire. Gavin Keller est basé à Beit Laya, dans le nord de la bande de Gaza, où il coordonne les accès humanitaires pour le Norwegian Refugee Council.
En ce qui concerne les déplacements, ce que nous constatons ici sur le terrain, c'est que depuis la fin du cessez-le-feu, 15% de la bande de Gaza environ a reçu des directives d'évacuation de la part des forces israéliennes. De nouvelles directives d'évacuation ont été émises il y a quelques heures à peine pour la ville de Gaza. Ça a un impact aussi sur mes propres collègues qui, en ce moment, essayent de décider où aller. Ils fuient avec leurs enfants, avec leurs parents âgés. Ils n'ont absolument aucune idée de l'endroit où ils pourraient se rendre, car il n'y a bien sûr aucun endroit sûr à Gaza. Et les Palestiniens en général n'ont aucun endroit sûr où aller. Ils n'ont plus la force de se déplacer. En ce qui concerne les besoins des abris à Gaza, plus d'un million de personnes ont toujours un besoin urgent de tentes. 700 000 autres ont besoin d'articles de base, comme des bâches en plastique et des cordes, pour renforcer leur abri de fortune actuellement inadapté et les bâtiments endommagés dans lesquels ils vivent. En raison de ces besoins considérables et parce que 1 million de personnes ont encore besoin de tentes, nous nous trouvons dans une situation où jusqu'à 10 personnes à la fois essayent de tenir dans une seule tente.
Gavin Keller du Norwegian Refugee Council, à propos recueilli par Alexandra Sirgan. La bande de Gaza où s'élève un sentiment anti-Hamas. Hier, des slogans ont été scandés contre le mouvement islamiste palestinien. Au cri de Hamas dehors, des centaines de personnes ont défilé dans la ville de Gaza. Le Soudan du Sud va-t-il replonger dans la guerre civile? Les craintes sont fortes, celles de l'ONU, surtout après l'arrestation hier du vice-président Riek Machar, le rival de l'actuel chef de l'État Salva Kiir. L'accord de paix signé en 2018 par les deux hommes est plus que jamais en danger. Au mois de janvier 2023, le pape s'était rendu à Djouba en se présentant comme un pèlerin de la réconciliation. Les générations futures honoreront ou effaceront la mémoire de vos noms en fonction de ce que vous faites maintenant, avait lancé avec sévérité le Saint-Père à l'adresse des dirigeants sud-soudanais. Au Soudan voisin, la guerre civile, elle se poursuit. La journée d'hier a été marquée par la reprise du contrôle de la capitale Khartoum par l'armée régulière face aux paramilitaires des forces de soutien rapide, les FSR. Alors que s'ouvre aujourd'hui à Paris un sommet international contre la malnutrition, direction Madagascar, dans un CRENI, ces centres de récupération et d'éducation nutritionnelle intensive, considérés comme les lieux de la dernière chance pour les enfants atteints de malnutrition sévère avec complications. Ils accueillent des petits patients épuisés et des parents souvent déboussolés. L'île de Madagascar compte 76 de ces centres. Dans le Grand Sud de l'île, soumis à la sécheresse et à des épisodes de famine récurrents, les chiffres des admissions des enfants malnutris sont inquiétants. 7560 admis le mois dernier, un chiffre qui a plus que triplé entre décembre et février. Reportage au CRENI de Tuléar, dans le Grand Sud de l'île, signé Sarah Teto.
Félix gît sur le matelas en plastique du CRENI. Le petit garçon de 17 mois a les yeux ouverts, mais le regard absent. Immobile, il n'a même plus la force de cligner les yeux pour chasser les mouches trop envahissantes. Il y a une semaine, explique sa maman, il s'est évanoui.
Ensuite, il a vomi et a eu la diarrhée. Je suis allée voir une praticienne, mais ça n'a pas eu d'effet. Alors je l'ai amené à l'hôpital, il était toujours inconscient et on nous a admis ici.
L'enfant souffre de malnutrition aiguë sévère. S'il suit le traitement de bout en bout, il aura 60% de chances de s'en sortir, indique l'infirmier qui s'occupe de lui.
Il était très 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 faible au moment qu'il était venu ici. On lui a donné de l'oxygénothérapie pendant 6 jours. C'est déjà 3 jours qu'il est réveillé, mais pas normal. Les médicaments, ce sont des antibiotiques et du lait thérapeutique introduit par la sonde.
Depuis décembre, les centres dédiés à la lutte contre la malnutrition aiguë sévère ont enregistré une très forte hausse d'admissions due en partie à la période de soudure. Les stocks de nourriture sont quasi épuisés dans les campagnes et la prochaine récolte n'aura pas lieu avant début mai. Mais le nombre d'enfants admis a aussi doublé par rapport à l'an dernier. L'UNICEF mène actuellement une enquête nutritionnelle pour en déterminer les causes. Et ce qui alerte encore plus, c'est l'augmentation sans cesse croissante de patients citadins comme Félix, preuve que cette pathologie ne touche plus seulement les habitants de la Brousse. À Tuléar, Sarah Teto, RFI pour Radio Vatican.
Un nouveau sommet sur l'Ukraine s'ouvre ce jeudi à Paris. Il réunit sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, mais aussi du Premier ministre britannique Keir Starmer, une trentaine de pays prêts à aider Kiev et assurer le maintien d'un éventuel cessez-le-feu avec la Russie. Sommet en présidence de Volodymyr Zelensky qui, hier, lors d'un entretien sur plusieurs télévisions européennes, a rappelé que l'un des objectifs de Vladimir Poutine était, selon lui, de frapper l'Europe de l'intérieur. C'est une première au Brésil. Jair Bolsonaro devient le premier président poursuivi pour tentative de coup d'État après 2 jours d'audience où ont été abordés le bien fondé des accusations et le respect du processus légal. Les juges de la Cour suprême ont autorisé la tenue d'un procès pour lui et 7 de ses co-accusés. L'ancien président d'extrême droite risque jusqu'à 40 ans de prison. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini.
À l'unanimité, les juges ont trouvé les preuves présentées par le parquet convaincantes et ont rejeté les recours de la défense. Le procès aura donc bien lieu. Ce sera le procès du noyau dur de cette tentative de coup d'État. On y compte Jair Bolsonaro et 7 autres personnes, dont des hauts gradés et des anciens ministres. Pour rappel, une partie du plan prévoyait d'assassiner Lula, son vice-président, et Alexandre de Moraes, l'un des juges de ce tribunal. Présent hier lors du premier jour d'audience, Jair Bolsonaro n'a cette fois pas fait le déplacement, mais dès l'annonce de la décision des magistrats, il s'est adressé à la presse pendant près d'une heure. Il a énoncé tous les arguments qu'il devrait marteler jusqu'à son procès. Pour lui, tout ça n'est que du vent. Il est victime d'une persécution judiciaire, un système de défense qui sert avant tout à mobiliser ses militants fidèles en espérant ainsi éviter la désertion de ses alliés politiques d'ici à la tenue du procès prévu pour la fin de l'année. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour Radio Vatican.
Et toujours au Brésil, l'actuel président Lula s'inquiète, lui, des nouveaux tarifs douaniers annoncés hier soir par Donald Trump, 25% supplémentaires sur le secteur automobile. Le Brésil qui annonce déposer plainte devant l'OMC. Direction le Canada ce matin dans notre dossier où vient de s'ouvrir la campagne électorale. Après la démission au mois de janvier du libéral Justin Trudeau et la désignation de son successeur Mac Carney, il y a 15 jours, les électeurs voteront le 29 avril prochain. Sauf qu'une turbulence vient perturber l'habituelle équation jouée entre conservateurs et libéraux. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et la multiplication de ses déclarations offensives envers son voisin, droits de douane, menaces d'annexion. L'électorat canadien inquiet a donc fait déjouer tous les pronostics, se cherchant le meilleur rempart contre le président américain. Au mois de janvier, les conservateurs avaient 20 points d'avance. Aujourd'hui, ils sont derrière les libéraux. Décryptage d'une campagne imprévisible ce matin avec Frédéric Boily, politologue à l'Université de l'Alberta au Canada. Il nous explique d'abord pourquoi le facteur Trump ne profite pas aux conservateurs.
L'image qui colle à la peau du chef conservateur Pierre Poilievre, c'est qu'il a un discours, un style politique qui rappelle trop à de nombreux électeurs certaines orientations idéologiques de Donald Trump. Et par conséquent, ça crée beaucoup de suspicions à savoir si Pierre Poilievre est celui qui est vraiment en mesure de défendre la souveraineté canadienne, tant sur le plan économique que politique. Jusqu'à maintenant, cette critique ou cette accusation ne collait pas tant dans l'esprit des électeurs. On y voyait plutôt qu'une tactique de la part des libéraux pour essayer de cacher leur bilan. Mais depuis la démission de Justin Trudeau, depuis l'arrivée de Mark Carney, depuis les menaces tarifaires qui sont en train de se concrétiser, cette accusation et cette critique colle davantage à l'image de Pierre Poilievre et il a beaucoup de difficultés pour s'en défaire.
Comment chaque camp joue-t-il politiquement des déclarations trumpiennes et est-ce l'unique thème phare de cette campagne?
On pourrait dire que c'est l'unique thème présentement, ce qu'on appelle la question de l'urne. Qui est en mesure de défendre la souveraineté canadienne sur le plan économique et politique face à l'administration Trump? Ce qu'on ne sait pas encore avec certitude pour le moment, ce début de campagne, c'est si d'autres thèmes ne finiront pas également par émerger. Peut-être même que d'ailleurs au sein de l'électorat canadien, les thèmes qui ont porté les conservateurs pendant toute une année dans les sondages, dans les intentions de vote, le coût de la vie, l'inflation, la crise du logement, pourraient peut-être revenir, peut-être pas au premier plan, mais certainement comme étant des thèmes qui pourraient être discutés un peu plus fortement durant la campagne, ce qui pourrait là être à l'avantage des conservateurs.
Face aux États-Unis, un vent de patriotisme semble désormais souffler sur le Canada. Est-ce à dire que, paradoxalement, l'électrochoc trumpiste est salutaire?
On n'avait peut-être pas pris conscience de la nécessité au Canada de construire davantage une économie nationale. Par exemple, entre les 10 provinces canadiennes et les territoires, il existe beaucoup de barrières interprovinciales qui empêchent le commerce, qui défavorisent le commerce entre les provinces. Évidemment, il y a une barrière géographique. Le Canada est immense, qui fait en sorte que pour toutes les provinces, c'était plus facile, plus simple, plus rentable économiquement de faire du commerce avec les États américains voisins qui sont beaucoup plus proches géographiquement. Mais justement, avec l'électrochoc Trump, ça a fait en sorte que les responsables politiques se sont dit maintenant qu'il faudrait peut-être développer davantage de liens interprovinciaux. Et donc, ça a relancé aussi le débat sur l'industrie de l'énergie, à savoir le pétrole et le gaz, peut-être de construire des infrastructures de transport, notamment en ce qui concerne le pétrole en provenance de l'Ouest canadien, pour peut-être trouver d'autres marchés d'exportation que celui des États-Unis, soit vers les côtes du Pacifique pour atteindre des marchés asiatiques ou pour atteindre certains marchés européens, France, Allemagne, et faire en sorte que l'économie canadienne soit de manière générale moins dépendante de l'économie américaine. C'est probablement cet aspect-là là, maintenant là, qui risque d'être le plus important dans les prochaines années. Comment construire une économie canadienne plus résiliente face aux soubresauts géopolitiques en provenance des États-Unis?
Interrogé par Delphine Allaire, le politologue canadien Frédéric Boilly était ce matin l'invité de Radio Vatican. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 13h pour une nouvelle édition. Excellente journée à tous.